RCF.
RCF, Fabrice Gironnet.
Heures sur RCF, c'est l'heure du 17-18 avec Alexis Claudretz.
La DRDDR cette saison. Demain, vendredi 14 juillet, étant férié, puis ensuite c'est les vacances, mais on a encore une heure à passer ensemble dans le magazine estival ce jeudi et cette saison, donc avec un zoom exceptionnel sur le concert pique-nique des Flâneries musicales. Non pas un, mais deux invités, le musicologue Francis Albou et la présidente des Flâneries musicales Claire Tétinger, nous rejoindront tour à tour en studio pour en parler. La jeunesse au pouvoir de ce magazine estival ce jeudi soir. Sati Dosso viendra nous dire au revoir dans sa chronique Parole de Jeunes et on retrouvera également L'œil de Lise avec Lise Renard qui proposera un focus sur le réalisateur américain David Fincher. Nous serons aussi avec les habitués du jeudi tels que Gérard-Marie Henry pour la question d'économie et Sati, évidemment, on vient de la mentionner, un habitué de l'été sur RCF Reims-Ardennes et de RCF Champagne-Ardennes en DAB+, c'est Claude Ruiz qui nous parlera des espaces protégés. Pourquoi faire ? C'est vrai, après tout, la question mérite d'être posée. Au fil de ce magazine, on vous donnera aussi des nouvelles du diocèse de Reims et des Ardennes avec Marie-Ange Turquet qui présentera un groupe Évangile au cœur qui part en pèlerinage sur les traces de François d'Assise ce dimanche. Un menu en 7 plats donc que vous pouvez consommer en prenant l'apéro chez vous, pourquoi pas. On est ensemble jusqu'à 18h et dans un premier temps avec nous par téléphone, on retrouve Gérard-Marie Henry, toujours du côté de la Bretagne depuis quelques temps déjà. Bonjour Gérard.
Bonjour Alexis, bonjour à tous.
Et j'ai envie de commencer cette chronique en vous parlant météo parce que c'est vrai que nous, en ce début de semaine, on a été touchés par les orages dans le Grand Est, en Bretagne. Comment ça se passe la météo ? On est entre soleil et pluie, uniquement soleil, ou en est-on ?
Météo capricieuse, mais en fait, les annonces générales de pluie se confirment pas. En fait, toi, ce matin, il devait y avoir de la pluie. En fait, il fait très beau.
Bon, bah ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Par contre, Gérard-Marie Henry, vous avez évoqué une météo capricieuse. Ça n'arrange pas nos agriculteurs, il faut bien le dire, parce que c'est quand même assez difficile pour eux de fixer leurs objectifs et voir comment ça va avancer pour les récoltes lorsque le temps est incertain.
En fait, depuis le mois de mars, il y a eu effectivement une météo qui était assez variable et donc on commençait à douter que les rendements allaient atteindre un niveau suffisant. Et en fait, heureusement, ça s'est calmé. Il y a eu suffisamment de pluie à bon moment. Et donc les rendements, en ce qui concerne le blé, sont redevenus tout à fait confortables puisqu'ils dépassent la moyenne des rendements des 10 dernières années. On est remonté à 75 quintaux à l'hectare, ce qui est tout à fait encourageant.
Donc ça, c'est une estimation pour l'année 2020. Et les récoltes à venir.
Les récoltes à venir, donc on devrait être autour, alors avec des variations régionales, hein, il y a des régions qui ont un petit peu plus souffert, ont un peu moins d'eau, mais la moyenne, d'après les estimations des experts, des organismes qui suivent un peu ça, on devrait être à peu près à 75 quintaux par hectare, ce qui est confortable par rapport aux années précédentes.
Alors, pour parler un petit peu de chez nous, finalement, est-ce que toute la carte de France a des récoltes équilibrées ou est-ce que vous le disiez, selon les régions, c'est pas tout à fait pareil ?
Oui, alors il y a les régions du Nord qui sont un peu pénalisées, mais en fait, nous, dans la région, on va dire Champagne-Ardennes jusqu'à la Lorraine, ça va être tout à fait convenable pour le blé et puis aussi pour d'autres récoltes, comme par exemple la récolte d'orge, la récolte de soja. On est en hausse par rapport aux années précédentes avec des résultats, alors évidemment, toujours une fois variables, hein, suivant les régions, suivant les endroits, il peut y avoir des différences locales, mais on a une performance qui est quand même tout à fait intéressante avec des prix qui continuent à être des prix assez soutenus par rapport à ce qu'il y avait en 2019, puisqu'il y a effectivement la guerre en Ukraine qui a tendu au niveau mondial les prix. Depuis, ils ont redescendu, mais ils sont encore à un niveau bon, assez satisfaisant. On peut toujours penser qu'ils pourraient être plus élevés, disent les agriculteurs, mais on est quand même dans des régions qui sont à peu près convenables. Par exemple, pour le blé, on devrait tourner autour de 230 le quintal. Alors évidemment, certains agriculteurs disent allez, à ce prix-là, moi je m'en sors pas vraiment, mais c'est quand même un niveau assez convenable.
Ça veut dire que la céréale reste un secteur porteur finalement ?
Il y a du oui et du non. Il y a d'un côté ceux qui disent je vais m'en sortir parce que j'ai une grande exploitation, je suis bien mécanisé, etc. Et puis d'autres agriculteurs qui abandonnent en fait cette culture céréalière parce qu'ils sont sur des surfaces moins intéressantes ou ils ont moins de techniques et donc ils partent vers d'autres activités, par exemple la méthanisation. Donc on a une diminution en fait des superficies qui sont emblavées en blé, en céréales, ce qui sur le long terme est un peu inquiétant, disent les experts. Hein. Si on a une surface agricole qui se réduit, même si les rendements tiennent bien, la production totale, elle ne va pas augmenter.
Alors effectivement, Gérard-Marie Henry, lorsque vous parlez céréales, vous parlez du blé, qui est peut-être la plus connue, mais il y en a d'autres aussi, on pense aussi au colza, ce genre de choses. Comment se passent tes récoltes dans d'autres domaines que le blé finalement ?
Bah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. On a, par exemple, pour le colza, on est dans une tendance d'augmentation de 5,7% par rapport à la moyenne 2018-2022. Donc, ce qui est bien, on va faire 4,6 millions de tonnes. En fait, ce qui est intéressant, c'est que la France a toujours été un pays très producteur de céréales et on avait des pays voisins qui, eux aussi, produisent des céréales, mais eux, en ce moment, sont touchés par les variations climatiques et c'est la France qui va tenir le choc à la fois pour notre consommation intérieure et puis pour aider les pays voisins à satisfaire leurs besoins. Donc, on a intérêt à continuer à avoir une agriculture française dynamique.
Alors dans cette question d'économie, Gérard-Marie Henry, avec vous, on parle économie, on parle météo. On n'a pas encore évoqué aussi le contexte, j'allais dire, mondial, parce qu'on imagine que ça peut là aussi jouer sur le cours du blé et des prix des céréales, le contexte un petit peu géopolitique, ce genre de choses.
Oui, tout à fait. Alors la grosse incertitude, c'est très bientôt, le 17 juillet, on va savoir si la Russie continue à accepter que le blé ukrainien passe par la mer Noire ou au contraire, ils arrêtent. Et donc là, on aurait, si cet accord n'était pas renouvelé, on aurait effectivement une forte augmentation des prix. Alors ce qui pourrait satisfaire évidemment les producteurs, hein, un prix qui remonterait largement au-dessus de 230 euros la tonne, mais qui aurait des conséquences sur l'inflation, sur les revenus des gens, etc. Donc bon, ça ne serait pas une très bonne nouvelle.
Bon, ben, il y aura affaire à suivre au niveau du cours de la céréale. On est encore avec vous quelques instants. On profite de vous, Gérard-Marie Henry. C'est la dernière question d'économie de la saison. Est-ce qu'aujourd'hui, il vaut mieux être agriculteur céréalier ou agriculteur éleveur de bovins ou alors agriculteur laitier où on sait, là aussi, on avait parlé tout au long de cette saison que la conjoncture pouvait parfois être difficile. Quelle est la meilleure situation pour un agriculteur aujourd'hui, d'après vous?
Je pense que le céréalier qui a une surface agricole utile importante, autour de 200-250 hectares, je pense qu'il va tenir le choc et il a un bel avenir devant lui. Alors évidemment, avec des prix des intrants en grès, etc., qui vont pas trop baisser. Donc il a des coûts de production qui augmentent, mais compte tenu de la demande mondiale, compte tenu de l'évolution qu'on va avoir de cette production mondiale, on estime que la production mondiale va continuer à augmenter, mais elle va augmenter à un rythme pas si extraordinaire que ça, de 1,1% par an, alors que la demande mondiale, elle augmente un peu plus, à 1,3%. Et donc ceux qui vont être positionnés sur la fourniture de céréales vont bénéficier de ce surcroît de demande face à une offre qui ne va pas forcément suivre la tendance. Donc on a de belles perspectives pour ceux qui sont bien armés, bien sûr. Alors les autres, ils sortent de cette production céréalière, ils font d'autres activités, bon, ils passent à culture multiple, etc. Mais les bons céréaliers de la région dans laquelle nous sommes, enfin dans laquelle vous êtes, pardon, les céréaliers qui sont entre Troyes et Reims, eux, ils ont des perspectives qui, à mon avis, sont tout à fait convenables.
Mais alors Gérard-Marie Henry, je vous provoque volontairement, mais si la demande mondiale est plus importante que la potentielle production, est-ce qu'on va pas vers un risque d'épuisement finalement comme tous les médias le racontent ?
Non, on a des stocks mondiaux qui sont tout à fait solides. Puis je suis certain que ces perspectives de croissance qu'on donne à 1,1%, elles vont être modifiées parce qu'on fait d'énormes progrès en ce qui concerne les semences. On a des blés qui résistent plus au stress hydrique, à la chaleur, etc. Donc pour l'instant, ils commencent seulement à être utilisés. Mais dans 5-10 ans, on va avoir généralisation de ces nouvelles céréales et on aura donc des rendements qui vont croître, même dans des pays comme l'Inde où pour l'instant, les rendements sont loin des rendements français, eux, ils sont entre 25 et 30 quintaux à l'hectare, même pas la moitié, et on peut imaginer qu'ils vont rattraper ce retard sur la décennie qui vient, et donc quand on se reverra en 2032, on dira tiens, la croissance de la production agricole a été plus forte que ce qu'on racontait il y a 10 ans, un peu à chaque fois ce qu'on raconte, quoi, c'est-à-dire avec le recul, on s'aperçoit que l'ingéniosité humaine est capable de faire des choses assez intéressantes.
Gérard-Marie Henry, je souhaite qu'on se revoie en 2032, mais même bien avant, ça sera à la rentrée de septembre 2023, si vous le voulez bien.
Tout à fait, Alexis.
Et puis, on vous souhaite un bel été. À très bientôt, Gérard-Marie Henry. Profitez bien de la famille, reposez-vous bien. Et puis, donc, on vous donne rendez-vous au mois de septembre, à la fois dans la question d'économie et puis aussi en musique avec Captain Midnight, que vous connaissez bien. Passez-lui le bonjour et souhaitez-lui un bel été.
Merci, Alexis.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Quand j'entends le jingle 18-19, Fabrice, vous savez, j'ai toujours envie de dire il est 18h et quelques, mais non, on est bien dans la tranche 17h-18h sur les ondes de RCF. Un invité en studio désormais avec nous, le musicologue Francis Albou. Bonjour Francis.
Bonjour Alexis, bonjour à tous.
Pour évoquer les flâneries musicales, encore une fois, on est émerveillé, on en a encore le sourire aux lèvres. Mais quelle édition, cette 34e édition des flâneries musicales, une très belle année 2023.
Une très belle année, effectivement, avec une pléiade d'artistes tout à fait exceptionnels qui ont renouvelé un petit peu le répertoire, puisqu'on a entendu de la musique du 15e siècle, de l'époque de Jeanne d'Arc, on a entendu de la musique du 17e siècle, remarquablement située et placée dans la chapelle du cardinal de la cathédrale, qui a montré que la cathédrale pouvait bien sonner si on chantait là où il faut chanter. Et puis nous avons eu un merveilleux cycle Mendelssohn, 4 concerts avec des œuvres de Mendelssohn, qui est un compositeur pas toujours bien aimé du 19e siècle et qui est pourtant un maître absolument incontesté. On ne serait passé sous le silence aussi le concert de clôture à la Basilique Saint-Remy avec les excellents musiciens du Louvre de Marc Minkowski qui ont donné 3 interprétations inoubliables et fabuleuses des 3 dernières symphonies de Mozart, jouées avec l'instrumentarium du 18e siècle et surtout avec la rhétorique et la véhémence qui était celle de Mozart. Et Minkowski a pu gommer toutes les petites choses veloutées que l'on faisait au début du 20e siècle jusque dans les années 60 et qui a donné Mozart la véritable image à la fois d'une certaine violence, d'une certaine agressivité et aussi d'une éloquence absolument rare et tellement proche de l'opéra.
On vous sent rempli d'émotion quand vous en parlez. On a senti cette année, sur cette édition, cette 34e édition des flâneries musicales, Francis Albou, un vent de fraîcheur, j'allais dire.
Tout à fait, un renouveau tout à fait passionnant qui, j'espère, se poursuivra.
Est-ce qu'il se confirmera à l'occasion du concert pique-nique du 22 juillet ? C'est le prochain rendez-vous que l'on donne à nos auditeurs.
Alors, le concert pique-nique, c'est un petit peu différent. C'est un grand rassemblement populaire. Il y a eu parfois 20 000 personnes. Enfin, c'est quelque chose de très curieux. La qualité musicale est au rendez-vous par la prestation des artistes. Cela dit, il faut savoir que le son passe quand même à travers quelques dizaines de haut-parleurs de sonorisation de plein air.
Et la qualité n'est pas la même. On ne vibre pas musique de la même façon.
Quoique... Certains, dans certaines circonstances, on peut admettre que le son ne soit pas en direct, mais sorte à travers les enceintes. Cela dit, le programme est fort bien composé. Il est composé de 2 parties. Il y a une première partie à 19h et une deuxième partie à 21h.
Alors j'allais dire, là, Francis Albou, il y en a pour tous les goûts. Ce concert pique-nique, c'est toujours l'événement familial où on peut à la fois retrouver les amateurs de musique et les petits flâneurs qui aussi ont le droit à leur concert. Eh bien là, finalement, on vient en famille avec les adolescents, etc. Tout le monde va pouvoir y retrouver la musique qu'il aime, forcément, à un moment donné. Si l'on regarde ce programme avec vous, la première partie déjà à 19h, on commence par du classique, j'allais dire Beethoven.
Alors on commence par une œuvre absolument éblouissante de Beethoven, c'est l'ouverture de Coriolan qui date de 1807, en gros à l'époque du 4e concerto de piano, de la 5e symphonie, de la symphonie pastorale, c'est-à-dire le Beethoven de la maturité. Et c'est une œuvre absolument extraordinaire qui vraiment bâtit sur une pièce de Collins racontant l'histoire de ce général romain Coriolan qui pactise avec les Volsques et qui après... c'est une histoire absolument passionnante qui servait de musique de scène à l'époque pour une tragédie de Collins. Et puis, il y aura aussi un petit peu de Verdi, un extrait du Corsaire de Verdi, qui est un opéra de 1848. C'est une histoire très romantique, tirée d'une pièce de théâtre de Lord Byron, d'ailleurs. Et c'est une jeune rémoise très talentueuse qui va chanter l'air de Medora. C'est Amandine Amirati, qui a fait ses études au lycée Clémenceau et qui fait maintenant une carrière absolument remarquable. Dernièrement, je l'ai entendue à La Havane avec Jean-Marie Puissant, qui dirigeait Didon est né de Purcell et elle chantait le rôle de Belinda et c'était vraiment magnifique.
Alors Francis Albou, avant de développer la deuxième partie, pour rester quelques instants sur sa première partie, c'est vrai que vous avez évoqué les œuvres, on va dire, plus classiques, Beethoven, Verdi, et au milieu de tout ça, on nous met du Pink Floyd, du Jurassic Park. C'est compatible ?
Ça peut l'être. Dans une fête comme celle-ci, ça peut l'être, évidemment. Nous sommes en plein air, les gens se restaurent, il y a force bouteille de champagne sur le terrain.
Ce n'est pas votre partie préférée à vous, j'allais dire, un puriste de la musique.
Non,
Vous avez le droit de préférer plus ou moins certaines choses.
Non, mais moi je suis plutôt un musicien classique, étant titulaire de l'orgue de Saint-Jacques, c'est plutôt ma musique de référence. Cela dit, j'aurais quand même, puisque vous me tendez la perche, faire une petite remarque, c'est que les flâneries musicales, c'est un festival de musique classique. Et il est bien que, pour plaire au grand public, on touche un petit peu à tout. Je l'avais d'ailleurs jadis écrit sur l'Union, lorsque j'écrivais très régulièrement sur l'Union, entre 2007 et 2020-21. Mais on ne renvoie jamais l'ascension. l'ascenseur dans l'autre sens. Lorsqu'il y a des concerts Magnific Society, par exemple, ou d'autres concerts de musique dite actuelle, on n'y glisse jamais une œuvre de Mozart, de Beethoven, de Debussy. C'est toujours les festivals de musique classique qui incluent des musiques actuelles, mais on ne renvoie jamais l'ascenseur dans l'autre sens. Je l'avais écrit, pourquoi pas un jour à la cartonnerie, des quatuors de Bartok ou des quatuors de Haydn.
Eh bien, pourquoi pas, Francis Albou, c'est vrai. Vous nous tenez une belle perche, là, pour regarder le programme de la deuxième partie de soirée de ce grand concert pique-nique. Ça sera à partir de 21h.
Alors, il est vrai que c'est un tour d'Europe. C'est comme ça que les choses sont intitulées, puisqu'on y entend des musiciens allemands, autrichiens, italiens, roumains, espagnols, tchèques. Alors, il y a un peu de tout. Il y a des œuvres d'Offenbach avec des extraits de la Belle Hélène. Ça, ça plaît absolument à tout le monde. Il y a à nouveau Verdi avec cette fois le célébrissime Chœur des pèlerins, extrait de Nabucco, qui est un opéra de 1842 qui a rendu célèbre Verdi. Enfin, évidemment, c'est la légende biblique de Nabucodonosor. Il y aura des extraits de Madame Butterfly de Puccini. Et il y aura un petit groupe d'œuvres qui tournent autour de 1890-1900. Comme par exemple le grand poème symphonique Finlandia de Jean Sibelius qui date de 1900 et qui est une œuvre absolument irrésistible. J'en suis persuadé qu'il va emballer tous les gens qui assistent à cette représentation. Il y aura aussi de Dvorak une œuvre à peu près contemporaine, 1893, le final de la célébrissime symphonie du Nouveau Monde. De la même époque, il y aura aussi des extraits de La vie brève de Manuel de Falla avec des extraits extrêmement populaires. Une œuvre qui date des années 1904-1905. Il y aura un extrait d'un oratorio de Dvorak, Sainte Ludmilla, l'un de ses trois oratorios qui sera chanté par le chœur. Et puis il y aura, que sais-je encore, les danses roumaines de Béla Bartok. Et pour couronner le tout, je vois sur le programme intitulé « Le final de la 9e symphonie de Beethoven », donc ce qu'on appelle couramment l'hymne à la joie. Ça me surprend un peu qu'il soit donné en entier, parce que l'hymne à la joie, lui tout seul, c'est 22-24 minutes de musique déjà, s'il y a l'intégralité. Et je n'ai pas vu mentionner des noms de solistes, parce qu'il y a bien sûr un quatuor de soliste de très très haut niveau, car cette musique de Beethoven est d'une difficulté absolument redoutable, aussi bien pour les solistes que pour les chœurs. Enfin, toujours est-il que nous entendrons sans doute de larges extraits du quatrième mouvement sur un poème de Schiller, de cet hymne à la joie de Beethoven. Alors, au niveau des interprètes, nous avons le magnifique orchestre de la garde républicaine que les gens connaissent mal. Ils s'imaginent que ce sont des gens à cheval avec des trompettes et des instruments à percussion, mais pas
mais
du
alors,
tout.
Mais alors, vous allez démystifier tout ça, François Albou.
Non, c'est un orchestre magnifique avec des cordes qui est capable de jouer les plus grandes œuvres du répertoire. C'est un orchestre qui est vraiment digne des plus grands orchestres parisiens. Il y aura l'ensemble lyrique de Champagne-Ardenne et le chœur Les Métaboles que nous avons entendu au cours du festival et qui nous ont donné un concert magnifique de musique baroque.
Eh bien, merci Francis Albou d'avoir balayé ce grand concert pique-nique. Alors, il n'y aura pas de vente sur place, hein, que nos auditeurs soient bien au courant, on le précise. Il est encore possible de réserver des billets, c'est de 10 à 15 euros jusqu'au 16 juillet, et puis de 10 à 18 euros à partir du 17 juillet, c'est pour tout public. Les billets sont disponibles via la billetterie en ligne. Merci de nous avoir présenté ce grand concert pique-nique, Francis Albou, et puis d'être revenu aussi au début d'entretien sur cette édition 2023, qui a été tout à fait exceptionnelle. On l'a senti, et dès qu'on est sur une programmation un peu plus classique, tout de suite, vous retrouvez le sourire et la fraîcheur de la musique. On vous dit à l'année prochaine, Francis Albou.
À l'année prochaine, on y est presque.
On y est déjà, vous y travaillez déjà certainement. Très bientôt, oui. Francis Albou.
Au revoir.
Et nous, dans quelques minutes, nous serons avec Claire Tétinger, la présidente des Flâneries Musicales.
Le 18-19 sur RCF.
Elle est passée deux fois cette saison sur l'antenne et comme le dit l'expression, jamais 203. Alors pour cette ultime magazine estival 2022-2023, place à l'œil de Lise avec Lise Renard.
Trust me. Everything's gonna be fine. You met me at a very strange time in my life.
À l'écoute des premières notes de la musique Where Is My Mind des Pixies, on ne peut pas s'empêcher de penser à la scène spectaculaire de fin du film Fight Club du réalisateur américain David Fincher qui est à couper le souffle. Ce film sorti en 1999 fut au départ un échec aux États-Unis avant de devenir un des films les plus cultes du cinéma hollywoodien. Aujourd'hui, lorsque l'on regarde un des films de David Fincher, on reconnaît son style particulier qui lui est propre. Un climat toujours un peu angoissant, un visuel très peu coloré, des décors qui ne sont en rien idylliques, un faible pour Brad Pitt à l'écran et des personnages froids, troublants et très souvent des serial killers. et cela dans une société la plus souvent fade, sans émotion et normalisant l'extrême. Mais je trouve que son style se résume surtout bien par ces quelques mots, « L'obsession du mal », qui est en fait le titre du livre de Juliette Goffard qui lui est voué et qui m'a aidée pour cette chronique. J'ai trouvé qu'il serait intéressant d'avoir un regard sur ces films à travers ces trois différentes thématiques, psychologiques, philosophiques et politiques. Premièrement, d'un point de vue psychologique. Le serial killer dans les films de Fincher peut l'être au sens strict, comme avec Amy Dune dans Good Girl, Jerry Brudos dans Mindhunter, John Doe dans Seven, ou au sens symbolique, comme avec la Consumer Recreation Service dans The Game, Tyler Durden dans Fight Club ou Lisbeth Salander dans Millennium. Par symbolique, on entend derrière une personne à la nature profondément violente et destructrice, qui pourrait avoir un profil digne d'un tueur, mais cela sans passer réellement à l'acte. Mais ce qui est perturbant chez Fincher, c'est la difficulté que le spectateur a à cerner les personnages. En effet, la notion de banalité du mal, théorisée par Hannah Arendt, se retrouve particulièrement dans ses films. Les serial killers sont loin d'un univers méphistophélique, avec une beauté de diable fascinante qui fait froid dans le dos. C'est ce que l'on voit dans Seven, Zodiac ou Gone Girl, où on observe une démystification du portrait de tueur en série, avec une certaine trivialité. D'ailleurs, l'expression qui désigne une personne non identifiée, John Doe, correspond au nom de tueur dans Seven. Dans le cinéma plus en général, cela peut aussi nous faire penser à Hannibal Lecter dans Le silence des agneaux de 1991, réalisé par Jonathan Demme et écrit par Ted Talley, qui paraît être, derrière son inhumanité et sa folie, un psychanalyste cultivé, délicat et poli. On peut observer ce paradoxe également chez Patrick Bateman, interprété par Christian Bale dans American Psycho de 2000, par Maria Ron, qui est au départ présenté comme un golden boy du Wall Street. Même s'il présente dès le début des caractères de psychopathe, il est maniaque, impatient, impulsif, sans émotion, accro à la drogue et à la pornographie. Il est en quelque sorte au départ un tueur symbolique pour le spectateur. Cette banalité du mal est aussi visible chez presque tous les personnages qui entourent les tueurs. Chez Fincher, tout le monde est quelque part hanté par une certaine noirceur. Par exemple, dans Seven, le tueur incarné par Kevin Spacey déclare au policier interprété par Brad Pitt qu'il sait que le policier est tenté par une haine envers lui qui pourrait le pousser à le tuer, mais que seulement il se retient car il sait qu'il pourrait y avoir des conséquences. Cela pourrait aussi nous faire penser au policier dans le film Basic Instinct de 1992 par Patrick Verhoeven, lorsque celui-ci a voulu même avoir un passé criminel. Dans Gone Girl, on remarque également que le mari de Amy Dune, qui n'est pourtant pas le tueur, est tout aussi perturbé que sa femme tueuse d'une manière, ce qu'avoue son avocat. Mais ce film nous montre aussi que toute la société l'est d'une façon, en regardant avancer une enquête de meurtre comme en regardant une série télévisée. Et cette société nous pousse même parfois à participer à ce mal, car les personnages principaux sont eux aussi obligés de changer la vérité et être théâtral devant la caméra, car l'opinion publique est aussi en jeu. Ce qui nous amène maintenant à une réflexion plus politique et sociétale. Si l'on prend l'exemple du personnage interprété par Edward Norton dans Fight Club, il est au départ un simple pion de la société contemporaine, qui n'a aucun sens à sa vie à part accumuler des meubles de chez Ikea. Mais il devient ensuite la figure de toute une révolution anarchique après avoir créé un groupe clandestin de combat ultra-violent. Les films de Fincher ont en effet un caractère obésien sur les bords, avec une vision violente de la société qui pourrait se résumer par ce dicton connu « L'homme est un loup pour l'homme ». La fin de Fight Club pourrait en cela faire aussi penser à celle de Joker, par Todd Phillips, avec Joaquin Phoenix qui finit aussi par inspirer une rébellion, ou à celle du dernier Batman de 2022, par Matt Reeves, où la révolution passe par les écrans. Et cela, Fincher l'a aussi compris, qu'un caractère obésien peut apparaître aussi à travers nos écrans, avec comme on l'appelle aujourd'hui communément la guerre des médias, qui est un élément essentiel en politique à prendre en compte. Et enfin, d'un point de vue philosophique. Car comme l'explique Juliette Goffard, un lien existe entre Nietzsche et Fincher. Fincher a une certaine haine envers la société postmoderne, visible dans ses films. Le serial killer est souvent le miroir contestataire de la société. Juliette Goffard relève une citation intéressante dans son livre qui est « J'ai un service à vous demander. Ne riez pas. Vu l'état du monde, sacré défi. » Cette citation est tout droit sortie du film « Manque » de 2020 de David Fincher. Elle nous démontre à quel point Fincher semble parfois nihiliste. Cette critique sociétale est aussi visible dans Seven, lorsque le tueur interprété par Kevin Spacey déclare à la fin qu'il a fait tous ses meurtres pour débarrasser la société de sa racaille. Et c'est un peu la même chose qu'il écoute Robert De Niro dans Taxi Driver de 1976 par Martin Scorsese lorsqu'il décide littéralement de faire le ménage dans la société. Cette phrase de lui résume parfaitement sa vision de la société. « I think someone should just take this city and just flush it down to the fucking toilet. » Je vais conclure par cette phrase de David Fincher qu'il dit en interview. « I think people are perverts. I've maintained that, that's the foundation of my career. » En cela, David Fincher est révélateur de certaines vérités perturbantes, mais fascinantes sur le grand écran. Merci de m'avoir écouté, j'espère vous retrouver l'année prochaine pour une nouvelle chronique.
Sans transition, on retrouve comme tout au long de cette semaine ou presque Claude Ruiz, notre géographe sur l'antenne de RCF France-Ardennes, sur RCF Champagne-Ardennes en DAB+, qui veut nous parler des espaces protégés. Bonjour Claude.
Bonjour à tous et à toutes. En cette période estivale où on a souvent tendance à profiter du temps libre pour profiter des espaces végétaux, des espaces naturels, nous allons reparler aujourd'hui donc des espaces naturels protégés. Cette saison estivale, elle est propice à cette découverte. Et en se posant une question un petit peu générale, juste pour provoquer la réflexion, sur des espaces protégés, mais pourquoi faire ? Alors, bien sûr, l'actualité témoigne d'un nouveau regard porté sur les espaces naturels protégés, à la fois par des spécialistes comme les géographes, et j'en suis un, donc j'essaye de traduire un petit peu ces nouvelles perceptions, mais ces espaces sont aussi le reflet de rapports que tissent les hommes avec leur milieu, qu'ils considèrent comme naturel. La question, c'est à quoi servent ces espaces naturels protégés ? Les réponses peuvent être de deux types d'argumentaires. D'une part, une vision plutôt environnementale, écologiste, on va dire, où il peut y avoir aussi une attitude morale de défendre la nature, protection de ces espaces, une sorte de sanctuarisation. Et puis un côté plus utilitariste, puisque là, on a des éléments plus fonctionnels et qui montrent qu'il ne faut pas déséquilibrer en réalité certains espaces. Alors, les espaces naturels, tout d'abord, servent-ils vraiment à protéger la biodiversité ? La délimitation des espaces naturels protégés, c'est un moyen, bien sûr, efficace pour protéger les espaces animaux et végétaux. Donc ça, on ne peut pas le retirer. L'objectif est bien ciblé et c'est bien un moyen. Mais c'est un peu insuffisant parce que l'homme n'est pas toujours destructeur de la biodiversité. Donc il ne faut pas toujours l'exclure. On a même, à l'échelle internationale, des types de cultures, même sur brûlis, qui peuvent être des éléments plutôt favorables au contraire au développement de la diversité végétale et animale. Ce serait le cas dans certains lieux africains par exemple ou asiatiques ou même au Canada. Donc on s'aperçoit que dans beaucoup de pays on a mis en place des zones de protection, mais bien entendu c'est parfois la protection qui peut déséquilibrer l'espace animal. On cite souvent l'exemple du Canada où, entre 1930 et 1960, on a pratiquement interdit les chasses aux loups, aux coyotes, aux cougars, et ça a provoqué un déséquilibre de l'espace. Les prédateurs sont venus en grand nombre et ont provoqué un déséquilibre. Donc, notez un petit peu ces éléments-là. Le déséquilibre, il est souvent complexe. On peut avoir des grands parcs, c'est le cas des grands parcs chinois actuellement, où il peut y avoir des déséquilibres, soit parce qu'on développe certaines activités à l'intérieur de ces grands parcs, vous savez, chasse sportive, on favorise certaines cueillettes et pas d'autres, etc., en particulier en Chine pour la pharmacopée traditionnelle. Donc, protection, gestion complexe. Alors, ces espaces naturels protégés, ne sont-ils pas des espaces en réalité récréatifs pour les citadins ? C'est un peu ce qu'on peut voir dans le développement de ces espaces naturels protégés en Europe ou aux États-Unis. L'exemple premier, un petit peu, ce sont, vous le savez, les grands parcs américains, comme Yellowstone, qui date de 1872. Donc là, bien entendu, quand on prend la justification de ces grands parcs américains, c'est à la fois un milieu merveilleux, sublime, un peu mystique, hein, avec de très très beaux paysages. La nature, elle sert là à communier avec Dieu aussi. Hein. Donc, il y a un mélange aussi de romantisme. Vous voyez, c'est un peu entre le romantisme européen et le transcendantalisme américain, l'élément religieux. Bon, donc, c'est pas toujours écologique au sens où nous on le prend de façon générale. Et les protections, les aménagements sont faits souvent pour les citadins américains, pour qu'ils puissent se promener, voir, rentrer en communion. Bien entendu, dans ce cadre-là, on s'aperçoit que l'homme joue un grand rôle. Et vous le savez que c'est un modèle qui va se diffuser des pays neufs, comme les États-Unis, vers l'Europe. Et puis ensuite, au niveau international, c'est par l'intermédiaire de l'UNESCO, et en particulier de ses classements, qu'on va rentrer, donc, je dirais, dans une vision un petit peu plus globale. Alors, les espaces naturels, est-ce que c'est pas seulement une réponse à nos angoisses collectives ? Réponse à la grande angoisse, vous le savez, du dérèglement. En effet, la destruction des milieux de vie, la disparition de certaines espèces, est-ce que c'est pas une sorte de préalable à la disparition de l'homme ? Il y a ces questions sous-jacentes qui sont toujours là, donc c'est d'autant plus prégnant, vous comprenez, dans la réflexion de l'homme. Donc c'est pas nouveau. Je vous rappelle que en Champagne, on est relativement bien placé. L'ordonnance de Colbert de 1669 sur les forêts royales, c'est pas le bois en lui-même, c'est plus une ressource globale, hein, une ressource essentielle. Donc c'est souvent, à l'époque, pour répondre à une lecture un peu catastrophique de l'action anthropique. Et ça va se continuer, hein. Comme on a peur, en fin de compte, de ces disparitions, en particulier au XIXe siècle, il y aura toute une littérature sur la protection des sols, des forêts et justement de ces équilibres. Donc le mouvement environnementaliste va se développer à la fois côté américain et côté européen. Et vous le savez, il va se diffuser parce qu'il y aura énormément, par l'intermédiaire du monde souvent universitaire ou associatif, de conférences qui vont essayer de mettre en évidence les déséquilibres. Donc cette angoisse de la survie humaine, elle est d'autant plus prégnante que le monde est fini. Alors, les espaces naturels, à quoi servent-ils ? Ben, les réalités, vous le sentez bien, sont diverses. C'est à la fois une réserve de ressources à exploiter, je dirais ultérieurement, inaliénable. Mais nous sommes aussi en temps de crise, donc il faut pouvoir utiliser ces espaces. On ne peut pas les laisser totalement de côté. Et les espaces naturels peuvent avoir, bien entendu, des fonctions stratégiques, géopolitiques, si vous voulez. Quand ces grands milieux se trouvent au niveau des frontières, on le trouverait entre Chili, l'Argentine, entre l'Afrique du Sud, la Tanzanie, etc. Donc il ne faut pas les laisser de côté, il faut les intégrer dans notre réflexion sur la gestion par les sociétés humaines. Je crois que la réflexion, surtout, est utile et nécessaire et on doit pouvoir être de meilleurs utilisateurs.
Merci Claude Ruiz, à bientôt, bel été.
Le 18-19,
tous les jours,
sur RCF,
à Reims,
Châlons, Charleville-Mézières.
Avec nous par téléphone, une personne bien connue dans le diocèse de Reims et des Ardennes et par les auditrices et auditeurs de RCF, Marie-Ange Turquet, qui a rejoint avec quelques diocésains l'association Évangile au cœur, ce qui l'amène avec d'autres personnes à se lancer sur les traces de François d'Assise ce dimanche. Marie-Ange Turquet, bonjour.
Bonjour Alexis, bonjour tous nos auditeurs.
On a donné pas mal d'éléments dans l'introduction. Ce qu'il faut retenir finalement, c'est cette démarche Évangile au cœur qui au niveau national est une association. Et vous, au niveau local, dans votre commune des Ardennes, Marie-Ange Turquet, vous avez essayé avec votre mari Henri de donner un nouvel élan ou de donner un élan tout simplement.
Bien, en fait, au départ, on est parti de ce constat que, avec les changements de notre église française et diocésaine, on avait de moins en moins d'occasions d'approfondir la parole de Dieu et on avait besoin de la découvrir d'une manière pas liturgique, c'est-à-dire de se l'approprier d'une manière différente. On avait vraiment cette envie, ce désir. D'ailleurs, c'est un désir qu'on a rencontré chez beaucoup d'autres chrétiens. Dans la démarche synodale, on a vraiment eu cette aspiration à une pratique de la parole de Dieu qui soit un petit peu plus profonde, un peu plus personnelle et peut-être en dehors simplement voilà, de la liturgie de messe, d'aller un peu plus loin, porter vraiment cette aspiration à approfondir la parole de Dieu, mettre dans nos vies, mais d'une manière pas spécialement intellectuelle. Et puis, bon, voilà, la vie fait souvent bien les choses. En préparant une sortie l'année dernière pour les jeunes de l'aumônerie à Paris sur les chrétiens d'Orient, je suis tombée sur un site internet qui parlait donc de groupes où on apprenait l'évangile par cœur. Cette démarche, ben, on l'a trouvée très intéressante. Henri, mon mari, avait fait avec le père Bruno Ayer il y a plus de 20 ans des rencontres à Charleville où ils apprenaient des récitatifs de l'évangile et donc il était vraiment intéressé par cette démarche. Bon, voilà, on a décidé avec mon mari de s'intéresser, de contacter les responsables de l'association. Puis il nous a proposé simplement une petite formation en visio pour pouvoir utiliser les outils qui sont à la disposition de ceux qui veulent se lancer dans un groupe et puis nous expliquer un peu comment il fallait fonctionner pour apprendre ces petits passages d'évangile. Ça nous a vraiment intéressés. On en a parlé un petit peu autour de nous dans la paroisse. Et bon, on s'est retrouvé très très rapidement à 6 personnes qui étaient vraiment intéressées. Et donc depuis septembre, eh bien, on se retrouve tous les 15 jours. C'est Valérie Potin, donc notre paroisse, qui coordonne un peu ce groupe. Et on se retrouve tous les 15 jours, le dimanche soir, pour apprendre un passage de l'évangile en le gestuant, comme c'est indiqué sur le site. Après, on mange ensemble, voilà, c'est aussi très convivial.
Alors vous l'avez dit, un groupe de 6 personnes, finalement c'est une petite assemblée qui peut encore grandir, mais en même temps il faut que ça reste, j'allais dire, un petit peu cocooning, un petit peu intime cette démarche, Marie-Ange Turquet.
C'est vraiment un apprentissage oral. L'oralité nécessite de répéter plusieurs fois. Donc, on répète chacun, puis ensemble. Et il ne faut pas être trop nombreux pour qu'on puisse apprendre ces textes-là. En fait, notre rêve, c'est vraiment que d'autres petits groupes se mettent à fonctionner autour de nous. C'est d'ailleurs ce qui est intéressant de voir. On le voit dans les documents et dans les vidéos qui sont mis à disposition sur l'intranet de l'association, que, en fait, c'est vraiment la première évangélisation à partir du Christ qui s'est faite comme ça. Comment si rapidement l'évangile est diffusé dans tout le pourtour méditerranéen? Eh bien, parce que justement, il y avait ces traditions d'oralité, d'apprentissage par cœur, et ça se faisait évidemment par petits groupes, avec ces textes qui étaient travaillés par d'abord la communauté, les gens qui avaient cette habitude de tradition, de composition de récits oraux. Après, ils ont été mis par écrit, mais avant d'être mis par écrit, ont d'abord été récités, appris par cœur, travaillés, et on retrouve un petit peu cette tradition de réciter l'évangile et du coup d'évangéliser par ces récits de l'évangile qu'on peut se transmettre par oral. L'idéal, ça serait que chaque membre du groupe donne envie à d'autres personnes d'apprendre l'évangile et de le diffuser de cette manière qui est finalement la première manière dont il a été diffusé. Hein.
Alors ça veut dire, si je comprends bien, Marie-Ange Turquet, que vous, votre groupe, il peut encore s'élargir un tout petit peu, mais que dans les Ardennes, par exemple, d'autres groupes peuvent se créer, même dans le diocèse de Reims et des Ardennes, pour quelque part respecter cette intimité d'être par groupe de 6-8 personnes au maximum.
Effectivement, le groupe ne peut pas être trop nombreux, donc l'idéal, c'est que les groupes se multiplient et s'aiment un petit peu partout. Et puis, l'intérêt, c'est vraiment qu'il y a un intranet. Donc, après avoir fait la petite visio de 20 minutes avec le responsable, on a eu accès au site internet où toutes les ressources sont mises à disposition. Il y a la vidéo de base qu'on regarde, qui dure très peu de temps, où on entend le passage de l'évangile et on voit les gestes qui y sont associés. Il y a quelques petites explications aussi. Il y a la fiche à imprimer qui est toute prête. Et puis, il y a des tas de compléments qu'on n'est pas obligé d'utiliser, mais qui donnent des précisions sur les traductions, sur la façon dont ces textes-là ont été élaborés, des petits points d'exégèse. Voilà, ça reste quand même des choses très concrètes. Ce sont des traductions qui sont faites à partir du texte de la Peshitta, c'est-à-dire l'évangile qui est utilisé encore aujourd'hui par l'église chaldéenne, qui était écrit en araméen, donc la langue proche de celle que le Christ parlait. Et donc, il y a une traduction qui est extrêmement concrète, avec des mots qui sont très parlants. Et nous, ça nous apporte vraiment une autre façon de voir certains passages de l'évangile qu'on pensait connaître depuis longtemps. Et finalement, on les voit sous un autre jour, en partant de cette traduction et en les récitant à l'oral. Il y a vraiment une redécouverte de certains passages de l'évangile qui donne une couleur à l'évangile qu'on n'avait pas vue. Il y a cette espèce de rumination de la parole de Dieu, parce qu'après, pour l'apprendre par cœur, en fait, dans la semaine, souvent on essaye de se le répéter, de se le remémorer. Finalement, eh bien, on retrouve un petit peu ce mouvement de... Peut-être que Marie retenait les choses dans son cœur, ça voulait dire ça, ça veut dire qu'elle se répétait ses récits dans son cœur. Et donc, on a une autre façon de vivre l'évangile, de le remémorer sans arrêt dans la vie quotidienne, qui donne une autre façon de voir les Écritures. C'est vraiment une découverte qu'on a fait tout au long de cette année et qui a vraiment émerveillé un peu tous les membres du groupe en disant, voilà, la parole de Dieu a trouvé une saveur, une nouvelle saveur grâce à cette démarche de l'apprendre par cœur, de le réciter ensemble.
Alors il y a peut-être parmi nos auditrices, nos auditeurs, Marie-Ange Turquet, des personnes intéressées qui aimeraient entamer la démarche mais qui ne veulent peut-être pas aller tout de suite sur l'internet Évangile au cœur au niveau national, qui aimeraient avoir des questions. Est-ce que vous, Marie-Ange Turquet, vous pouvez être là pour les guider? Est-ce qu'on peut peut-être donner votre contact, votre numéro de téléphone? Parce qu'on sait que vous êtes une personne un petit peu connue dans le diocèse de Reims et des Ardennes, vous pourrez peut-être les rassurer, les guider aussi davantage vers cette démarche?
Oui, oui, tout à fait. Vous pouvez donner mon numéro de téléphone, celui de Valérie Baudin aussi, qui coordonne, qui fait un petit peu le secrétariat de la rencontre, qui essaie d'animer ces rencontres et qui est aussi prête à en parler et à le diffuser. Donc voilà, et surtout s'il y en a qui sont intéressés, qui veulent simplement se renseigner pour savoir comment ça fonctionne, qui n'hésitent pas à nous contacter, même peut-être à venir simplement nous rencontrer, participer à une rencontre ou nous demander, moi je veux bien aussi me déplacer éventuellement pour montrer juste une rencontre, comment ça se passe, le faire expérimenter. Je crois qu'au lieu d'en parler, en fait, le mieux, c'est quand même d'en faire l'expérience. Et vraiment, on se rend compte en plus que ce sont des expériences. Nous, les premières fois où on a commencé, on était assez stupéfaits parce que c'est une démarche déjà cérébrale qui nous est inconnue. On n'apprend plus rien par cœur aujourd'hui. C'est pas facile. Alors parfois, un ou l'autre de nos enfants étudiants ou jeunes pros nous a rejoints. On s'est aperçu que, eh bien, ils avaient beaucoup plus de facilité à apprendre par cœur que nous. Mais en même temps, on se disait, ben voilà, c'est une gymnastique cérébrale qui est sûrement très utile pour nous et en même temps qui est très joyeuse parce que bon, c'est vrai que ça crée une dynamique. Je crois que vraiment à chaque rencontre on attrape au moins un fou rire en apprenant par cœur, on rit de nos difficultés et c'est très convivial. Le groupe d'ailleurs qui était au départ, enfin on se connaissait pas spécialement tous, on est différents, d'origines différentes et vraiment d'apprendre l'évangile nous a soudés et nous a donné envie d'aller plus loin. C'est pour ça qu'on a décidé un petit peu de faire le chemin d'Assise. On s'est dit finalement ce retour à l'évangile, c'était aussi la démarche de François d'Assise, donc pourquoi pas le chemin d'Assise.
Eh bien justement, Marie-Ange Turquet, on en parle dans quelques instants de ce pèlerinage quand même pour en dire quelques mots avant de se quitter. Mais vous avez dit qu'on pouvait donner votre contact. Je donne votre numéro, non pas que je veuille vous refiler la patate chaude, mais je n'ai pas le numéro de Madame Godin. Alors si vous l'avez, vous pourrez le préciser aussi. Le vôtre en tout cas, Marie-Ange Turquet, c'est le 06 89 74 30 54. Pour nos auditeurs et auditrices qui n'avaient pas de stylo sous la main, qu'ils peuvent aller chercher un petit bout de papier, un petit crayon, tout ce qu'il faut. On le rappellera d'ici quelques instants parce qu'effectivement, vous l'avez dit, il y a ce pèlerinage sur le chemin d'Assise. Le départ, c'est ce dimanche. Dimanche 16 juillet, vous allez marcher ensemble avec tout ce groupe, avec votre mari, avec Valérie Godin qui est la coordonnatrice du groupe Évangile au cœur dans les Ardennes. Donc voilà, ça va être une belle démarche et comme sur les ondes de RCF, j'allais dire, la joie se partage.
Voilà, ben je vous donne aussi le numéro de Valérie. C'est donc le 06 28 50 17 93, que les auditeurs n'hésitent pas à contacter l'une ou l'autre pour avoir des renseignements. Et puis, oui, effectivement, nous partons dimanche sur le chemin d'Assise. Voilà, c'est une belle expérience. On est proche aussi des Clarisses de Cormontreuil qui vont nous porter dans leurs prières. Voilà, et on espère pouvoir réviser sur le chemin que tous ces passages de l'Évangile qu'on a appris par cœur, on les a recopiés sur un petit carnet de manière à pouvoir un petit peu aussi s'entraîner sur le chemin pour y pénètre un petit peu nos cœurs. C'est vraiment une façon de vivre l'évangile qui est très concrète, de les apprendre par cœur, qui n'est pas intellectuelle, qui est à la portée de vraiment tout le monde, comme la marche d'ailleurs, où on va prier, la prière va passer par nos pieds, et bien on trouve que les deux démarches se complètent bien.
D'ailleurs, sans trahir de secret, je crois que vous serez accompagné par le père Maxime Labesse dans cette démarche.
Oui, en fait, au départ, on partait à 6 et puis il se trouve qu'on lui en a parlé. Il était libre cette semaine-ci et qu'il a accepté de nous accompagner. Et c'est vraiment une très, très grande joie pour nous d'être accompagnés par un prêtre, voir célébrer l'Eucharistie tous les jours, prier la prière des heures avec lui. Et puis, bon, on va essayer de lui faire découvrir aussi l'Évangile par cœur. On espère surtout que l'année prochaine, il n'y aura pas qu'un groupe qui partira sur le chemin d'Assise et qu'on sera plusieurs du diocèse à pouvoir faire ce beau chemin qu'on va découvrir.
Eh bien, on vous souhaite de passer un beau et bon chemin, Marie-Ange Turquet. Le départ, c'est depuis Vézelay ce dimanche sur le chemin d'Assise. Marie-Ange Turquet, pour qu'il y ait plus de groupes l'année prochaine, on peut vous contacter au 06 89 74 30 54 ou alors Valérie Godin, qui est la coordinatrice du groupe, au 06 28 50 17 93. Bon pèlerinage, Marie-Ange, bel été et à très bientôt.
À très bientôt.
Le 18-19 sur RCF.
Fidèle jusqu'au bout du bout le jeudi soir avec sa chronique Parole de Jeunes, Satie nous rejoint même ce jeudi 13 juillet pour nous dire au revoir. On essaye de faire aussi bien que toi, Satie, bonjour.
Bonjour Alexis.
Satie, pour cette dernière émission, tu passes de l'autre côté du micro, tu passes de la personne intervieweuse à la personne interviewée. Un an déjà d'aventure, qu'est-ce que tu as envie de retenir de cette émission Parole de Jeunes que tu as brillamment présentée à nos auditeurs pendant toute une saison?
J'ai envie de retenir que c'était une expérience magnifique, que ça m'a appris beaucoup de choses, que j'ai réussi à aller davantage vers les gens. Voilà, Parole de Jeunes, c'était vraiment une belle expérience et je ne regrette absolument pas de m'être lancée dans cette aventure.
Et aujourd'hui, la mauvaise nouvelle pour nos auditeurs, on va le dire comme ça, même s'ils seront encore très bien accompagnés sur les ondes de RCF, France-Ardennes, mais la très bonne nouvelle pour toi, c'est que tu rends le micro pour aller vers de nouvelles aventures, notamment en ce qui concerne ta vie étudiante.
Oui, c'est ça. Dès septembre, je vais étudier à Lille, à l'Université de Lille, qui est en partenariat avec l'École supérieure de journalisme de Lille. Donc je pars pour étudier le journalisme, c'était vraiment mon rêve depuis mes 12 ans, donc c'est un bel objectif qui est atteint, même si je suis quand même navrée d'abandonner le micro RCF.
Bon, en tout cas, félicitations pour réaliser son rêve, aller dans les études supérieures, c'est toujours un changement, un bouleversement, en tout cas dans la vie étudiante. L'occasion aussi de revenir sur la thématique du baccalauréat que tu avais abordé la semaine dernière avec certains de tes camarades. On peut te féliciter là aussi, puisque tu pars en études supérieures, on imagine que tu l'as eu, et plutôt brillamment d'ailleurs, il y avait même une petite mention qui traînait dans les parages.
C'est ça, j'ai eu la mention assez bien.
Bon bah écoute, Sati, félicitations. Maintenant que tu pars vers les études supérieures, tu nous l'as dit, c'était un rêve pour toi de te diriger vers l'école donc de Lille, avec cette possibilité aussi de faire du journalisme. Comment tu vois la suite à moyen terme?
J'aimerais plus tard devenir journaliste, j'aimerais beaucoup faire de la presse écrite. Après, on est encore sûr de rien et il y a beaucoup de choses qui me plaisent, donc je pense que les options sont nombreuses.
Avant de te laisser filer, c'est vrai qu'on a aussi envie de revenir sur l'aventure Parole de Jeunes, parce que un an, ça passe à la fois vite, mais à la fois ça peut être un petit peu long. Des fois, quand on est en carafe de sujets, etc., tu as partagé beaucoup de témoignages, beaucoup de rencontres avec nos auditeurs. Est-ce qu'il y a des moments pour toi qui ont peut-être été plus difficiles que d'autres ou qui t'ont plus marqué que d'autres?
Évidemment, en septembre, c'était un peu plus difficile parce que j'ai dû apprendre à parler au micro, j'ai dû apprendre à utiliser le micro, à monter. Donc c'était plus difficile, c'était le temps d'adaptation qui a pris un peu de temps, mais après ça, ça a été beaucoup plus simple, c'est devenu beaucoup plus naturel. Et évidemment, certaines émissions ont été plus marquantes que d'autres, certaines ont été plus intéressantes, entre guillemets. Cependant, j'ai beaucoup appris en discutant avec beaucoup de monde.
Et puis on imagine aussi que les rencontres parfois peuvent surprendre. Alors c'est vrai que lorsqu'on fait cette émission Parole de Jeunes, c'est parfois plus facile d'aller vers ses amis, mais c'est aussi l'occasion de rencontrer d'autres personnes. Ça a été le cas quelques fois cette saison où tu as pu découvrir des univers riches et variés, j'allais dire.
Oui, exactement. On a pu notamment rencontrer Lou, qui tient son média. On a rencontré Elisa Palassin, qui a organisé un événement musical. Et Roman, qui est très investi dans la maison des lycéens du lycée Clémenceau de Reims.
Effectivement, ça a fait quelques belles rencontres parmi d'autres, où là aussi, c'était l'occasion de pouvoir partager des moments forts aussi avec tes amis, parce que même lorsqu'on les interroge, le rapport n'est pas le même que lorsque l'on va faire une sortie en ville, au cinéma, au bar ou ce genre de choses.
Bien sûr, il y a beaucoup plus de sérieux car mes amis ont directement pris mon rôle de bénévole au sérieux. Ils étaient très investis, ils étaient très contents pour moi et ça leur faisait également plaisir d'utiliser le micro et de passer à la radio évidemment.
Bon, en tout cas, nous, on était très contents, Sati, de vous avoir à nos côtés pendant toute cette saison radiophonique. On vous souhaite évidemment tout le meilleur pour la suite. Vous savez, il y a une formulation que j'utilise toujours Jean-Pierre Benoît, notre rédacteur en chef ici. Il dit toujours, faites-nous une promesse. Sati, faites-nous une promesse. Vous repasserez nous donner des nouvelles de vous sur RCF. Vous nous tiendrez au courant de comment ça évolue pour vous.
Merci beaucoup, Alexis. Et bien sûr, je reviendrai dès que j'en aurai l'occasion.
À très bientôt, Sati. Merci beaucoup pour cette saison. Et puis, bel été.
Merci, bel été à vous aussi. Au revoir.
On vous a parlé d'un menu en 7 plats et vous le savez, en restaurant gastronomique, avant le dessert, on vous sert les mignardises. Alors on ajoute un témoignage surprise. Vous le savez, du 2 au 6 août, les journées mondiales de la jeunesse se tiendront à Lisbonne, au Portugal. Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, archevêque du diocèse de Reims et des Ardennes et président de la conférence des évêques de France, sera de la partie. Il se remémore quelques souvenirs de JMJistes.
Oui, alors moi je suis un peu vieux. Les premières JMJ, c'était à Saint-Denis-de-Compostelle. J'étais déjà un séminariste assez avancé, mais c'était formidable parce que alors là, pour le coup, tout était improvisé. Jean-Paul II avait convoqué tout le monde, rien n'était vraiment très organisé, donc chaque groupe faisait un peu ce qu'il voulait. Après, il y a eu des choses plus organisées, plus structurées, ce qui était très bien ici. Pour moi, un beau souvenir, c'était évidemment les JMJ de Paris, c'était un moment spécialement marquant. Mais les premières JMJ en Espagne à Saint-Denis-de-Compostelle gardent la fraîcheur de la première fois, de ce rassemblement un peu incroyable, de gens de partout, dans la poussière, mais un peu épuisé, épuisant. Mais on était heureux, on avait le sentiment, à travers ce voyage et ces rassemblements, d'aller chercher des choses bien en profondeur de soi et de s'affermir vraiment dans notre décision de suivre le Christ.
Le 18-19,
tous les jours,
sur RCF,
à Reims,
Chalon, Charleville-Mézières,
On termine en musique avec les flâneries musicales au programme pour les dernières minutes de ce magazine estival. Clap de fin sur la 34e édition. Claire Tétinger est avec nous en studio. Bonjour Claire.
Bonjour Alexis.
Toujours un plaisir de vous avoir accueilli tout au long de cette saison des flâneries musicales en tant que partenaire des flâneries avec la radio RCF France-Ardennes. Claire Tétinger, c'est vrai qu'avant d'évoquer ce concert pique-nique qui est toujours le grand rendez-vous, le grand moment qui vient clôturer finalement cette période des flâneries musicales. D'ailleurs, on donne tout de suite le rendez-vous à nos auditeurs. Le 22 juillet au Parc de Champagne à Reims, il n'y aura pas de vente sur place. Jusqu'au 16 juillet, on peut encore se procurer des billets en ligne de 10 à 15 euros. Si on tarde un petit peu, ça sera toujours la possibilité de se fournir des billets, mais de 10 à 18 euros. Tout ça, c'est à partir du 17 juillet, c'est pour tout public, c'est le grand concert pique-nique. On en parle avec vous dans quelques instants, Claire Tétinger. Mais avant cela, en tant que présidente des flâneries musicales, on a envie de vous demander votre regard, la photographie de ce que vous retiendrez de cette édition 2023, Claire Tétinger, des flâneries musicales.
Écoutez, je trouve que c'est une belle édition. En tout cas, j'ai reçu des félicitations, ce qui, ça n'arrivait rarement jusqu'à moi, et j'ai trouvé très agréable d'avoir des personnes qui écrivent pour dire combien ils étaient contents, combien ils avaient passé de bons moments aux flâneries. Et ça, c'est très encourageant. Et puis, c'est vrai que c'était une édition un petit peu différente parce que il y avait plus de musique baroque que d'habitude, donc forcément, la programmation est différente. Et vraiment, on a eu de très beaux moments. Alors, des moments plus calmes et puis des moments où il y avait beaucoup de monde. Donc, et puis aussi des impatiences parce qu'on ne peut pas toujours faire rentrer tout le monde dans une petite salle. Et voilà, donc c'est compliqué. Mais dans l'ensemble, j'ai vraiment trouvé que c'était une très belle édition.
Une année comme à chaque fois marquée par ses péripéties, parfois avec la météo qui fait ses caprices. Une année où, encore une fois, les petits flâneurs ont été mis à l'honneur parce que c'est vrai que lorsque l'on parle musique classique, on a souvent tendance à avoir cette image voilà, des adultes qui vont se rassembler, qui vont aller écouter un concert. Mais ça fait partie, j'allais dire, de votre fibre, Claire Tétinger, de rendre la musique classique accessible à tout public.
À tout public, c'est-à-dire même aux jeunes. Et d'ailleurs, plus ça va, je remarque que la sortie des concerts, plus ça va, plus il y a de jeunes. Et ça, c'est vraiment un grand plaisir. Et pour cela, on a été aidés parce qu'on a fait des tarifs spéciaux pour certains concerts pendant l'année avec l'université, etc. On a travaillé avec eux de manière à ce qu'il y ait plus de jeunes qui viennent à nos concerts. Et ça, pour moi, c'est une grande joie. Et c'est une récompense quand on se donne du mal pour faire de beaux concerts. C'est une récompense de savoir que tout le monde peut venir.
Alors évidemment, Claire Tétinger, la question que je vais vous poser, elle est un petit peu compliquée pour vous y répondre, certainement. Mais vous n'avez peut-être pas dû faire tous les concerts quand même. Vous avez essayé d'en faire un maximum. Quels sont les temps forts qui vous ont marqué à titre personnel? Quels sont ceux que vous avez particulièrement appréciés?
Alors je vais vous dire d'abord, j'ai fait tous les concerts.
C'est incroyable, Claire Tétinger.
Je suis allée, sauf un concerts. Où j'ai été obligée d'aller chez un de vos confrères à Paris, parce que j'avais une interview, mais sinon, je vais à tous les concerts, parce que
mais
ça
demande de l'endurance.
Ça demande de l'endurance, c'est vrai. Parfois, je suis un peu fatiguée à la sortie des flâneries. Il y a eu des temps forts. J'ai fait une découverte. J'ai fait la découverte du chef qui s'appelle Alexis Kosenko. Et je l'ai trouvé extraordinaire. Il a donné deux concerts. Il a donné un concert en petite formation où ça, c'est un programme baroque, etc. Je suis moins encline à apprécier ce genre de musique, bien que j'en ai fait beaucoup. Mais il a surtout donné le lendemain, il a donné une espèce de conversation entre Bach et Mendelssohn. C'était au manège. Et l'orchestre était absolument splendide. Et ça, c'était vraiment... Il a mené ça à la baguette d'une manière en même temps énergique et très souple et très chantante. Et ça, pour moi, c'est ce que j'aime, parce que c'est bien d'avoir des œuvres extraordinaires, d'avoir des musiciens extraordinaires. Encore faut-il que tout le monde chante et puisse entendre ce chant. L'important, c'est d'avoir de l'émotion. Voilà. Et j'en ai eu plusieurs fois pendant ces flâneries. Et ça, c'est une récompense aussi.
Bon, on imagine que pour lui, l'invitation est déjà lancée pour d'autres éditions, Claire Tétinger.
Écoutez, je ne sais pas si on va tout de suite le réinviter, parce qu'on fait attention d'inviter plusieurs personnes.
Évidemment, il faut que ça tourne et faire découvrir de nouvelles choses.
Et puis, il a des programmes. Je pense qu'il est... C'est un musicien plutôt enclin à... Enfin, il fait de tout. Il est musique baroque, musique romantique. Donc ça, c'est... Je crois même musique contemporaine. Donc ça m'intéresse. Mais l'année prochaine, on a une édition un peu spéciale. On va à une édition qui est très en lien avec l'Angleterre, dans la mesure où il y a les Jeux Olympiques. On a des tas d'athlètes qui viennent s'entraîner à Reims, et puis on a la flamme qui passe à Reims. Donc pour nous, on a décidé déjà de jouer le jeu, et donc effectivement, ce seront des surprises. Mais donc on n'aura pas forcément les personnes qu'on a aimées cette année, mais Peu importe, on les réinvitera plus tard.
Et on fera d'autres très belles découvertes. En tout cas, le clin d'œil est très sympa avec Reims, Terre de Jeux et les Flâneries musicales. Les Flâneries musicales, on est déjà en train de parler de 2024, Claire Tétinger, mais arrêtons-nous sur 2023. Il y a ce grand moment que toutes les familles attendent, finalement, que tous les amis ont envie de partager ensemble, un petit peu comme chacun des concerts, mais ce moment-là, il est toujours particulier. C'est le grand concert pique-nique, c'est le 22 juillet, c'est au Parc de Champagne, c'est à Reims.
Oui, absolument, c'est un moment tellement attendu, si attendu. Alors, je suis contente parce que les gens ont l'air de réserver, etc. Ça, c'est important pour nous. Et on se donne énormément de mal pour que ça soit une vraiment festif. Si vous voulez, un concert, ce n'est pas toujours festif. Si c'est de la musique, ça peut être de la musique triste, etc. Enfin, que certains peuvent trouver triste. Mais là, c'est vraiment c'est un concert avec du rythme, vous voyez. Alors, en première partie, mais ça, je suppose que vous l'avez déjà dit, on a un orchestre symphonique départemental des jeunes Marnais. Ça, c'est sous la direction de Yann Molena. Et ça, c'est un peu une première pour eux. Je pense que c'est... ils ne doivent pas jouer souvent devant 18 000 personnes. Vous voyez, c'est merveilleux. Avec quelques solistes, dont Amandine Amirati, soprano, et Lucius Arkman, qui est à la guitare. Voilà, ça, je pense que ça va être une très, très belle première partie.
Ça va permettre de mettre en appétit.
Ça met en appétit. Alors ensuite, on a une heure d'entracte, si je puis dire, pendant laquelle on va animer cet entracte. Je ne vous dis pas avec qui, parce que comme ça va être une surprise.
On garde encore quelques surprises. Voilà. On invite les auditeurs de RCF à aller les découvrir en réel.
Absolument. Et ensuite, on a la deuxième partie, qui est avec l'Orchestre symphonique de la Garde républicaine et l'ensemble lyrique de Champagne-Ardenne, le chœur Ars Vocalis et le chœur des Métaboles, qui est venu chanter et qui est avec à la direction Léo Varinsky, qui est aussi un chef extraordinaire. Il a donné un concert à l'église Saint-André, c'était une merveille.
Alors pour cette deuxième partie, Claire Tétinger, vous nous promettez un tour d'Europe en 90 minutes.
Et oui, absolument, parce qu'on va avoir des hymnes, on va avoir des airs connus. Et je souhaite que le public chante avec nous, participe à ce concert, parce que La plus grande joie, la plus grande émotion, c'est de pouvoir chanter ensemble. Ça, je pense que ça sera réussi si tout le monde se met à chanter.
Il y aura certainement des frissons lors de ce tour d'Europe en 90 minutes. Ça, c'est pour la deuxième partie où on sera sur quelque chose de plus classique qui correspond finalement aux flâneries musicales. Et la première partie, vous sortez un petit peu de votre zone de confort parce que autant on retrouve du Beethoven, du Verdi, autant on a aussi des choses à interpréter qui sont un peu plus actuelles. Je pense à Pink Floyd,
oui,
à
Pink
Scorpion,
Floyd,
Claire Tétinger. On n'a pas l'habitude de retrouver les flâneries musicales dans ce registre.
Et même à Jurassic Park. Oui, on n'a pas l'habitude de retrouver ça, mais moi j'aime bien la diversification. Et sachez que les musiques modernes, les musiques pop, etc., sont très souvent inspirées de la musique classique, de morceaux de compositeurs de la musique classique. Il y a évidemment, et c'est merveilleux de réentendre tout ça arrangé de manière différente et peut-être un peu plus cinglante, vous voyez, un peu plus...
Eh bien, c'est tout ce qu'on espère, Claire Tétinger. On invite évidemment nos auditeurs à se rendre au Parc de Champagne. On l'a dit, hein, jusqu'au 16 juillet, il est encore possible de se procurer des billets. Le rendez-vous, c'est via la billetterie en ligne ou à bord du fameux camion billetterie des Flâneries, hein, qui est toujours présent aux quatre coins de la ville de Reims. De 10 à 15 euros jusqu'au 16 juillet inclus. Si on tarde un petit peu, la preuve qu'il ne faut pas hésiter, qu'il ne faut pas tarder, ça sera un tout petit peu plus cher, de 10 à 18 euros. Mais quoi qu'il arrive, si on ne peut pas se décider maintenant, ça vaudra quand même la chandelle parce que ça annonce un très bel événement. Ce concert pique-nique le 22 juillet au Parc de Champagne à Reims, Claire Tétinger.
Oui, et en plus, tout cela sera suivi d'un magnifique feu d'artifice, comme on a l'habitude de faire. Donc, je vous encourage vivement à vous dépêcher de prendre vos billets.
Ça sera la cerise sur le gâteau. Merci, Madame la Présidente, Claire Tétinger des Flâneries musicales, d'avoir été fidèle à la présentation de toutes ces péripéties, de toutes ces manifestations tout au long de cette 34e édition. Et puis, on vous dit à l'année prochaine, Claire Tétinger.
À l'année prochaine, mais je voulais surtout ajouter un immense merci à RCF qui nous a accompagnés tout au long de ces flâneries. Je vous remercie sincèrement de tout mon cœur et de la part de tout le monde des flâneries.
Aux flâneries comme sur RCF, la joie se partage. À très bientôt.
À bientôt.
Et pour nous, bientôt, ça sera au moment de la rentrée. Il faudra patienter jusqu'à mi-août pour retrouver nos équipes locales. Une période de vacances où vous serez parfois accompagnés malgré tout par des programmes locaux, notamment lundi matin à 7h et 8h. Marc Besancenet, directeur de Jean 23, sera au micro de Jean-Pierre Benoît. À l'occasion des Journées mondiales de la jeunesse cet été du côté de Lisbonne au Portugal, aussi on devrait prendre l'antenne sur RCF France-Ardennes. Quoi qu'il en soit, on vous remercie, vous les auditeurs, pour votre fidélité et vous les auditeurs donateurs pour votre générosité. On vous souhaite un bel été, prenez soin de vous, j'ai déjà hâte de vous retrouver, à très bientôt sur RCF.